Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. Restaurateurs et patrons de bars ont été entendus pour la réouverture des terrasses le 19 mai. Le gouvernement leur donne le choix, appliquer une jauge de 50% ou mettre des séparations en dur entre chaque table. Un air de grandes vacances en ce début de pont de l'Ascension, gares et autoroutes bondées et réservations qui explosent. Nous serons à Quiberon où l'arrivée des nombreux touristes ravit les commerçants. L'escalade meurtrière continue au Proche-Orient entre Israël et le Hamas. Tirs de roquettes sur des villes israéliennes contre frappes aériennes sur la bande de Gaza. Le féminicide de Mérignac a été une suite de défaillances dans le suivi du conjoint violent et récidiviste. Première conclusion de la mission d'inspection sur ce drame. Un échec de trop, reconnaît Marlène Schiappa sur Europe 1. Dans ce journal également, le profil très inquiétant de l'auteur présumé du double meurtre dans les Cévennes. 300 gendarmes tentent toujours de le localiser. Roland Garros sera le premier événement sportif majeur à accueillir du public. Jusqu'à 13 000 spectateurs avec passe sanitaire obligatoire. Et puis le foot, demi-finale de Coupe de France ce soir. Montpellier affronte en ce moment le PSG, Julien Froment.
Effectivement, ça va repartir là cette seconde période. Un partout, but de Mbappé pour Paris et fantastique but de Laborde pour Montpellier à la 45e.
A tout de suite Julien. La météo, elle sera grise, humide et fraîche pour ce jeudi de l'Ascension. Seules les régions au bord de la Méditerranée auront droit à une journée bien ensoleillée, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en petite hausse, plus 0,19% à 6279 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hamo de Boursier.com. L'interview écho, dans 20 minutes, les prix vont augmenter. Est-ce le signe d'une économie en surchauffe? Faut-il craindre une inflation galopante? Autant de questions que posera Emmanuel Duteil à son invité Philippe Wächter, chef économiste chez Natixis. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un café et l'addition, s'il vous plaît. Voilà une phrase du quotidien que l'on va bientôt pouvoir prononcer à nouveau. J-7 avant la réouverture des terrasses, un événement très attendu par les Français, mais redouté par certains restaurateurs et patrons de bars. En cause, la jauge à 50% qui sera imposée dans un premier temps, pas viable économiquement pour les établissements qui n'ont que quelques tables en extérieur. Alors pour les inciter tout de même à rouvrir, dès le 19 mai, le gouvernement a revu sa copie et leur propose une alternative. Clément Le Saffre.
Ouais, finalement, les cafés et restaurants avec une terrasse auront le choix le 19 mai. Première option, ils appliquent la jauge de 50%. Par exemple, sur une terrasse de 50 mètres carrés, ils pourront accueillir au maximum 25 clients. Une mesure qui arrange plutôt les établissements avec des grandes terrasses. Et pour les petits espaces, il y aura donc une autre option, à savoir ouvrir l'intégralité de la terrasse, mais en installant des séparations entre chaque table. Alors, ça peut être un panneau de plexiglas, une plante, un paravent ou un simple panneau de bois, à eux d'être imaginatifs. C'est en tout cas au restaurateur ou au cafetier de faire son propre choix. Il n'y a pas un nombre de tables maximum pour l'une ou l'autre des dispositions. Chacun fait en fonction de ce qu'il arrange, même si à Bercy, on précise que l'ouverture totale avec séparation est plutôt destinée aux terrasses en longueur, un type terrasse parisienne, ou bien aux extensions éphémères autorisées dans certaines villes.
Précision signée Clément Le Saffre. Depuis aujourd'hui, tous les moins de 50 ans peuvent se faire vacciner contre le Covid, à condition qu'il y ait des créneaux disponibles et d'avoir réservé la veille. La demande est visiblement énorme. Le site Doctolib a battu hier son record de fréquentation, près de 9 millions de visiteurs, soit une hausse de 50% par rapport aux chiffres moyens de la semaine dernière. Si les chiffres de la vaccination sont en hausse, de l'épidémie, en revanche, sont en forte baisse. En une semaine, le taux d'incidence a diminué de 20% dans l'Hexagone et près de 3500 patients ont quitté l'hôpital ces trois derniers jours. Tous les feux sont donc au vert pour un retour progressif à une vie plus normale et nombre de Français comptent bien en profiter dès maintenant. En témoigne l'affluence aujourd'hui dans les gares et sur les routes pour ce long week-end de l'Ascension. Beaucoup de monde au départ et à l'arrivée, comme à Quiberon ou sur place. Charles Guyard, il flotte comme un parfum de grandes vacances.
Oui, depuis ce matin, Quiberon a presque en effet retrouvé son rythme de saison haute. Voitures, bus, vélos et piétons, charge à Jérémy, chef d'escale de la compagnie Océane, de gérer au mieux ce flot ininterrompu qui déferle vers le port, direction l'un des bateaux, en partance pour les îles bretonnes, égare à ceux qui n'auraient pas déjà acheté leur ticket.
Tout est complet pour Belle-Île, ouais. À part s'il y a des désistements, parce que niveau météo, il y a encore un petit peu de pluie attendue.
Un temps certes capricieux, mais loin de décourager les nombreux visiteurs, comme Luc et Ronan.
C'est une bouffée d'air. Le premier week-end de déconfinement, je crois qu'on va avoir beaucoup de monde.
Ouais, on avait
avait réservé, on avait anticipé pour se promener un petit peu.
Se promener ou naviguer sur un voilier de location par exemple est là aussi impossible de prendre la mer sans avoir réservé longtemps à l'avance. Pierre de Locavoile n'a plus rien de disponible.
J'ai plus de bateau. Tous sont loués pour les 4 jours. J'en aurais 10 de plus, je les aurais loués je pense, vu les demandes qu'on a eues.
À une centaine de mètres du port, les commerçants se frottent également les mains à l'image de la belle Iloise où Stéphanie et Brigitte réapprovisionnent les rayons.
Un gros week-end annoncé, donc on fait le plein pour être prêt. Enfin, on est content de se refaire tout doucement.
Et dans la boutique, les clients arrivent vraiment de partout.
Parisiens, Calvados, de Marseille, de Lille. C'est parti, enfin.
Et voilà comment, malgré quelques averses aujourd'hui, Quiberon s'est presque déjà remis en mode estival au moins, jusqu'à dimanche soir.
Merci Charles Guyard, à Quiberon pour Europe 1.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le 22-22-30.
Au Proche-Orient, la crainte d'une guerre à grande échelle se confirme d'heure en heure. Depuis lundi, plus de 1000 roquettes ont été tirées par le Hamas en direction d'Israël, dont l'armée multiplie les frappes aériennes sur la bande de Gaza. Et ce soir, le bilan s'est une nouvelle fois alourdi, Johanna Chabas.
Oui, dernière victime connue, un petit garçon de 6 ans tué dans la ville israélienne de Sderot, touché par des roquettes du mouvement islamiste palestinien. Une centaine de tirs en quelques heures fait en représailles d'une attaque israélienne qui a tué au moins 3 cadres du Hamas, dont le chef de la branche militaire de la ville de Gaza. Le bilan est donc de 7 morts en Israël depuis lundi, 65 dans l'enclave palestinienne, dont 16 enfants. Les hostilités n'ont jamais été aussi fortes dans la région depuis la guerre de Gaza en 2014 et pourraient encore s'aggraver. Hier soir, le chef du Hamas a déclaré que si Israël veut une escalade, la résistance est prête. Si Israël veut arrêter, nous sommes prêts aussi. Il appelle les forces israéliennes à se retirer de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Face à cette flambée des violences, les États-Unis ont envoyé ce soir un émissaire en Israël et dans les territoires palestiniens pour demander une nouvelle fois la désescalade des combats. L'Union européenne demande, elle, l'arrêt immédiat des violences.
Merci Johanna Chabas. C'est noté que l'ambassadeur et chef de la mission Palestine en France sera demain matin l'invité de Sonia Mabrouk à partir de 8h15 sur Europe 1. Un geste fort, Boris Johnson a présenté ce soir les excuses sans réserve de son gouvernement pour les fusillades en Irlande du Nord en 1971, 10 morts complètement innocents selon Belfast. C'est la première fois qu'un Premier ministre britannique présente des excuses pour cette tuerie. Les premières conclusions de la mission d'inspection sur le féminicide de Mérignac sont sans appel. Il y a eu une suite de défaillances dans le suivi du conjoint violent et récidiviste. Cet homme qui avait tiré sur sa femme la semaine dernière avant de la brûler vive. Le rapport pointe notamment des problèmes de coordination entre les services qui auraient dû être plus attentifs au parcours de cet homme déjà condamné à de la prison pour des violences conjugales. Il ne portait pas de bracelet anti-rapprochement et c'est trop souvent le cas à regretter ce soir sur Europe 1, la ministre Marlène Schiappa, invitée de Julien Bugier.
En ce qui concerne le bracelet, moi je vais vous dire les choses comme je les pense, les dispositifs sont sous-utilisés. Les bracelets anti-rapprochement que nous avons créés...
Il nous a été dit qu'à Bordeaux, il n'y avait pas de bracelet anti-rapprochement disponible au moment où ce monsieur est sorti de prison.
Il y a toujours des bracelets anti-rapprochement disponibles et de la même manière pour les téléphones grave danger. J'avais sur le terrain des associations qui me disaient « on n'a pas assez de téléphones grave danger ». Et quand je regardais les lignes budgétaires du ministère de la Justice, on me disait « mais attendez, on en finance plein ». Et on s'est aperçu qu'il y avait 2/3 des téléphones grave danger dans des placards qui n'étaient pas assez attribués. Donc avec le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et moi-même, nous disons qu'il faut utiliser les dispositifs qui existent. C'est le sens des circulaires qui ont été prises. Cette mission, elle sera rendue publique le 10 juin quand elle sera terminée, cette mission d'inspection. Et nous prendrons toutes les décisions nécessaires pour que cela ne se reproduise plus.
Marlène Schiappa, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, qui était ce soir l'invité du 18-20 d'Europe 1. À Amiens, un appel à témoins a été lancé pour localiser le compagnon d'une jeune femme découverte morte dimanche. Elle a été poignardée et retrouvée au domicile de son conjoint, considéré désormais comme le principal suspect. Dans les Cévennes, toujours aucune trace ce soir de l'homme qui a abattu hier son patron et l'un de ses collègues dans la Syrie où il travaillait. Le tueur présumé a pris la fuite dans l'immense forêt qui borde le village des Plantiers dans le Gard. Près de 300 gendarmes, dont le GIGN, tentent de localiser le fugitif dont le profil a de quoi inquiéter au vu des détails livrés par le procureur de Nîmes, Stéphane Frangy.
Oui, puisqu'à son domicile, les perquisitions ont permis de mettre la main sur un véritable arsenal, une douzaine d'armes, dont certaines décrites comme très sophistiquées, ainsi que 3300 munitions de tout calibre. Mais ce qui inquiète particulièrement le procureur Éric Morel, c'est une des deux armes que le fugitif aurait actuellement en sa possession.
Une arme longue, et si c'est celle que l'on pense, une arme d'une particulière dangerosité. Qui a une portée de tir d'environ 300 mètres et qui est particulièrement dévastatrice et qui peut être particulièrement précise si elle est munie des appareils de visée qui lui correspondent.
Et on apprend en effet que cet homme de 29 ans nourrissait des espoirs, déçu d'intégrer l'armée, notamment une unité de tireurs d'élite. Et le procureur Morel souhaite lui faire passer ce soir un message, s'il est toutefois en mesure de le recevoir.
Le seul message, bien entendu, que je peux lui adresser, c'est de revenir à la raison, de déposer les armes, et parce qu'il le doit à sa famille, qu'il le doit aux familles des victimes, qu'il le doit à sa communauté, de venir s'expliquer dans le cadre d'une reddition pacifique.
Et la traque qui se poursuit avec d'importants moyens dépêchés sur place, hélicoptères avec caméras thermiques, chiens pisteurs, ainsi que l'appui du GIGN.
Stéphane Frangy, envoyé spécial d'Europe 1 dans les Cévennes. 12 ans après le crash du vol Rio-Paris, il pourrait bien y avoir un procès pour Air France et Airbus. La compagnie et le constructeur sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Un soulagement pour les familles des 228 victimes, alors que les juges d'instruction avaient prononcé il y a 2 ans un non-lieu général. Airbus annonce un recours devant la cour de cassation. Air France pourrait en faire de même. En politique, un nouveau tour de passe-passe ravive la crise au sein du parti Les Républicains. Renaud Muselier annonce qu'il y aura bien des membres de La République En Marche sur sa liste, mais pas de ministre ni de parlementaire, précise le président sortant de la région PACA et candidat à sa réélection. Il n'y a aucun accord d'appareil, assure-t-il. Eh bien, ce n'est pas l'avis de Bruno Retailleau. Le patron des sénateurs LR demande ce soir à son parti de retirer son soutien à Renaud Muselier. Nous aurons des olé et des hola dans les tribunes de Roland-Garros. Elles seront certes clairsemées, mais il y aura bien du public pour assister aux internationaux de France de tennis qui doivent débuter à la fin du mois. Et pour l'occasion, le gouvernement a accepté de relever le plafond de la jauge à 65%, Simon Rubin.
Exactement, le tournoi qui va accueillir jusqu'à 5388 spectateurs quotidiens jusqu'au 8 juin inclus, et puis même jusqu'à 13146 personnes quotidiennement à partir du 9 juin et pour les 5 derniers jours de compétition. Alors un pass sanitaire sera nécessaire pour se rendre à Roland-Garros, pass sanitaire qui devra attester soit du résultat d'un test négatif, soit d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de rémission. Et puis l'autre élément, c'est le couvre-feu qui sera en vigueur pendant le tournoi. Et là, pas le choix, il faudra évacuer le public en amont, prévient la directrice générale de la fédération, Amélie Oudéa-Castéra.
Au premier changement de côté qui interviendra à partir de 20h30 maximum, peut-être même 20h15, l'arbitre demandera au public de quitter le stade. Et on estime que le fait qu'à 45, les portes se ferment et tout le monde évacue le stade au plus tard, se gérera de manière responsable.
Et on imagine que pour évacuer un court central au moment d'un cinquième set décisif sur les coups de 20h15, ça peut être un peu compliqué. Un mot enfin sur les joueurs. Vous savez que l'an passé, ils devaient rester à l'hôtel. Cette fois, ils auront droit de sortir 1 heure par jour pour se dégourdir un peu les jambes.
Quelle chance! Merci beaucoup Simon Rubin. Pas de passe sanitaire exigé en revanche pour la fête de la musique. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a reconnu que ce serait logistiquement impossible à mettre en place. Fête de la musique qui se tiendra bien à la date habituelle, le 21 juin. On termine ce journal avec le foot et ce match que l'on vous fait vivre ce soir sur Europe 1, Montpellier-PSG, demi-finale de la Coupe de France, probablement la seule compétition que les Parisiens sont en mesure de remporter cette saison. Julien Froment, on vous retrouve, vous êtes en direct du stade de la Mosson et les Parisiens ont repris l'avantage.
Effectivement, 57e minute de jeu, 2-1 pour Paris face à Montpellier grâce à son grand bonhomme de la saison. C'est Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, premier but inscrit à la 10e minute de jeu. Superbe frappe sous la barre du gardien montpelliérain après une très bonne passe d'Idriss Agueil. Paris qui a largement dominé la première période, mais Paris qui s'est fait surprendre juste avant la pause par un but tout aussi magnifique, sublime, signé Gaëtan Laborde, l'attaquant montpelliérain, lancé côté gauche aux abords de la surface de réparation, a envoyé un missile sous la barre, même dans la lucarne de Keylor Navas qui ne pouvait strictement rien faire. Un but partout, et puis à la 50e minute en seconde période, Kylian Mbappé, lancé cette fois-ci par Rafinha, a déposé en vitesse Vitorino Hilton. Là, les cardages de quasiment 20 ans entre les deux joueurs s'est vu. Et Kylian Mbappé est allé conclure le ballon dans les buts donc de Berthaud. Donc 2-1 pour Paris pour le moment, bien lancé pour aller en finale de la Coupe de France. Alors que là, il y a encore une nouvelle occasion pour les hommes de Mauricio Pochettino. 58e minute de jeu, 2-1 pour Paris face à Montpellier.
Merci beaucoup Julien Froment, en direct du stade de la Mosseau. Prochain point sur ce match dans quelques minutes à la fin de cette édition. L'autre demi-finale aura lieu demain soir. Elle opposera les amateurs de Rumilly à l'AS Monaco. Et puis, toujours en foot, Clermont est quasiment assuré de monter en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Et ce, après le match nul ce soir de Toulouse, qui est 3e au classement. Il reste un match en retard, mais avec la différence de but, les Clermontois sont quasiment assurés de rejoindre l'élite. La météo, Anissa, Dadi et Snava, ça ne va pas être folichon demain, presque toutes les régions seront sous la pluie.
Oui, c'est un jeudi de l'Ascension, il va falloir un parapluie obligatoire demain. Julien, de la Normandie à la frontière belge, en passant par la région parisienne, il pleut toute la journée. D'ailleurs, c'est en Normandie que les pluies seront les plus fortes. Des Ardennes aux Alpes, dans le nord-est, nous avons un temps là aussi très gris et très pluvieux. D'ailleurs, la limite pluie-neige va bien s'abaisser dans les Alpes, puisque nous aurons des flocons dès 1200 mètres. Et puis à l'ouest, sur la façade atlantique, là aussi, c'est un ciel gris avec pas mal de pluie toute la journée. Il n'y a finalement que le pourtour méditerranéen qui aura droit à une journée ensoleillée demain. Dans l'après-midi, en Bretagne, sur le Nivernais, une partie du Limousin, le Val-de-Saône, la Bourgogne. Là, ce sont les orages qui éclatent demain après-midi, donc prudence. Une grande partie de la moitié nord est concernée par ces orages. Au sud, nous avons une alternance d'averses et d'éclaircies. Et puis toujours ce grand et beau soleil au bord de la Méditerranée. Et en Corse, les températures, 5 à 12 degrés le matin, c'est stationnaire. Hein, comme aujourd'hui, 5 à Gap et Charleville-Mézières, 6 pour Nancy et Clermont-Ferrand, 9 degrés à Paris, Lille et Lyon, 11 à Marseille et 12 degrés déjà le matin à Nice et Ajaccio. Au meilleur de la journée, ça reste frais pour la saison avec 13 degrés à Cherbourg, 15 à Bordeaux, Besançon et Paris, 16 degrés à Périgueux et Colmar, 17 pour Lyon et Nantes, 20 degrés à Marseille et 22 la maximale pour Montpellier.
Merci beaucoup Anissa Dadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hameau de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Les prix vont augmenter, est-ce le signe d'une économie en surchauffe? C'est la question que posera dans un instant Emmanuel Duteil à son invité Philippe Wächter, chef économiste chez Natixis. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Et c'est avec Didier Hameau de boursier.com. Bonsoir mon cher Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street poursuit sa baisse après la publication d'un indice d'inflation plus fort que prévu aux États-Unis.
Et oui, c'était le risque et ça baisse très fort. Effectivement, le Dow Jones, moins 2%, pratiquement moins 1,99%, 33 587 points. Le Nasdaq, moins 2,67%, 13 031 points. La crainte des investisseurs se confirme donc. L'indice d'inflation du mois d'avril, qui était attendu à plus 0,2%, est ressorti à plus 0,8% aux États-Unis. Sur un an, cela donne plus 4,2%. Contre un objectif de 2% qui est celui de la Réserve fédérale, on en est loin. La Banque centrale estime que cette flambée est temporaire, sans pour autant rassurer Wall Street, donc, où les taux d'intérêt se tendent vers les 1,7% pour l'emprunt à 10 ans. Le pétrole, lui, continue de grimper, $66 le baril, donc encore en hausse d'1,2%, comme toutes les matières premières d'ailleurs, ça flambe, et donc toutes les valeurs baissent. Les vedettes, les technologiques vedettes, hein, comme Facebook, comme Netflix, Apple, tout ça, ça recule nettement, moins 2% en moyenne pour Apple, $122.70, Microsoft, moins 3%, Amazon, moins 2,2%, Google perd 3%, Tesla, moins 4,4%. C'est plus calme sur les devises, même si l'euro revient un cran en arrière. 1,2075 face au dollar.
La Bourse de Paris a réussi, quant à elle, à clôturer en légère hausse grâce au secteur bancaire.
Oui, c'est presque miraculeux. Plus 0,19%, 6 279 points. Après beaucoup d'hésitations, ce sont les banques effectivement qui ont permis au marché de résister. La hausse des taux profite au secteur financier qui reconstitue ses marges. La Société Générale grimpe encore de 2% à 25,80 €. Crédit Agricole plus 1,5%. BNP Paribas plus 1,4%. Il y a aussi Total qui est le cinquième groupe le plus lourd du CAC 40 qui remonte de 2,3%, 39,30 €. Total profite évidemment de la nouvelle hausse du baril. Le baril ce soir à plus de 66 $ le WTI.
Exception du jour, le titre Ubisoft qui a lourdement chuté après l'annonce de ses comptes.
Oui, moins 11%, 54,80 €. Ubisoft a déçu alors que les objectifs du groupe sont vraiment en dessous de ce qui était attendu après un exercice record en 2020 grâce au confinement. L'avenir sera moins favorable selon le groupe avec la sortie de crise sanitaire. La fourchette attendue de résultats pour Ubisoft se situe entre 420 et 500 millions d'euros. C'est très large, c'est assez flou pour le marché qui réagit mal, en baisse donc de 11%. 54,80 € ce soir à la clôture pour Ubisoft. Les autres places financières sont assez stables finalement. En Europe, plus 0,2% à Madrid, plus 0,2% sur le DAX à Francfort et le CAC 40 gagne modestement 0,19%. 6279 points.
Merci beaucoup Didier Hamaud de Boursier.com et à demain. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Philippe Wächter.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes chef économiste chez Natixis et si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est pour parler de la hausse des prix. Hier soir, à la même heure, sur cette antenne, le patron de Renault, Jean-Dominique Senard, disait « Oui, nous allons être obligés d'augmenter le prix de nos voitures. Pourquoi ? Eh bien parce que le prix des matières premières était en train d'exploser. Vous le voyez, vous aussi, Philippe Wächter ?
Bien parce qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a une reprise très significative depuis le début de l'année dans l'activité manufacturière. On le voit dans la progression finalement très rapide du commerce mondial. Et puis, deuxième point, pendant la période de confinement sur l'année 2020, il y avait eu un petit peu moins d'investissement, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre, il y a une demande qui est très forte sur ces matières premières et une offre qui est un petit peu plus limitée.
C'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que pendant la période des confinements partout dans le monde, on a moins produit. Et là, tout le monde se réveille parce que la reprise est là, notamment en Chine, notamment aux États-Unis et un petit peu en Europe. Tout le monde se réveille pour acheter la même chose au même moment. Et donc, c'est une application très simple de la règle de l'offre et de la demande.
Exactement. On a un phénomène très, très simple qu'on voit de manière très, très directe sur le prix du pétrole, mais sur aussi un grand nombre de matières premières qui alimentent des puces pour les voitures, tout un tas d'éléments dont le prix augmente parce que il y a une demande qui s'accentue de façon très, très significative. Alors, donc, il y a ce mouvement qu'on voit dans le secteur industriel et auquel il faut être attentif.
Le patron de Renault nous disait hier soir « J'ai rarement vu un tel mouvement inflationniste en même temps sur autant de matières premières ». Vous aussi, pardonnez-moi l'expression Philippe Wächter, vous êtes un vieux briscard de l'économie. Vous aussi, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ça ?
Ah, on observe sur un grand nombre d'éléments, des tensions, on le voit sur les matières premières, on commence à le voir sur le marché du travail aux États-Unis, pas encore en Europe, mais on voit des déséquilibres très marqués qui devront se traduire dans les prochains mois par un peu plus de pression salariale. Et donc, il y a tout un tas de facteurs qui suggèrent que les taux d'inflation pourraient être un petit peu plus élevés pendant un petit peu plus longtemps que ce qui était attendu.
Alors, si on traduit ça, là aussi, ça veut dire qu'on va tous payer plus cher nos produits ?
Oui, on va tous payer plus cher nos produits, mais pour une raison aussi assez simple, c'est que l'économie est en train de se reformer après la crise sanitaire.
Hier, une fois de plus, le patron de Renault, Jean-Dominique Senard, nous disait sur Europe 1 « Je peux vous dire que ça va augmenter, mais je suis incapable de vous dire de combien, tellement ça bouge vite ». On avait également sur Europe 1, il n'y a pas longtemps, le fabricant des vérandas Akena qui nous dit lui aussi « ça bouge tout le temps et on va par exemple augmenter nos prix de 2% au 1er juin ». Mais est-on capable de quantifier combien ça va nous coûter à nous consommateurs ?
Pour l'instant, c'est compliqué parce que vous avez des prix qui vont bouger, mais qui ne concernent pas grand monde. Si vous faites une véranda chez vous, ça ne concerne pas tout le monde. Donc l'impact sur l'indice des prix va être très limité. Ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est que le prix de l'énergie, le prix de l'essence, qui a fortement augmenté via le prix du pétrole, ça c'est quelque chose de très très palpable, si je puis dire, dans l'indice des prix.
Ce qui est très palpable aussi, c'est l'augmentation des coûts de transport pour les industriels, parce que là encore, parce que tout le monde achète la même chose au même moment, tout le monde veut transporter beaucoup de produits au même moment, et après une énorme période de crise, il n'y a plus de conteneurs aujourd'hui, on n'arrive plus à faire, à faire venir les produits.
Absolument, non, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une reprise très vive, notamment en Asie, du commerce international, ce qui fait qu'il y a une demande de bateaux, il y a une demande de conteneurs qui est tout à fait spectaculaire et qui est bloquée par un manque de bateaux, un manque de conteneurs. Et donc, les prix montent parce que chacun veut quand même délivrer son produit. Et donc, on a une situation très, très nouvelle sur ce plan-là et qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. C'est ça le point intéressant, c'est que d'un seul coup, chacun s'interroge sur la possibilité d'un ajustement macroéconomique qui passerait par un peu plus d'inflation, alors que depuis le début des années 80, on nous dit non, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'inflation, ça nuit à la croissance macroéconomique.
Mais là, ce qui est un petit peu fou, Philippe Wächter, c'est qu'on sort de la plus grande crise depuis l'après-guerre à travers le monde, et que quelques semaines après ou avant la sortie de crise, on est déjà à se dire « Oula, ça repart trop vite, il faut faire attention, il y a un risque de surchauffe ?»
Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais il faut être attentif. On a des plans terribles en Chine, aux États-Unis. Il y a des plans de relance qui sont d'une ampleur jamais observée. Hein. Les 1900 milliards, qui était le premier plan Biden, les 2250 milliards, le deuxième plan, les 1800 milliards pour le troisième plan. Alors, tout ça va s'étaler dans le temps, mais ça crée une impulsion qui, aujourd'hui, est très rapide. Et on le voit dans des indicateurs, par exemple sur les créations d'emplois aux États-Unis, on voit que la situation est en train de changer et on le voit même en Europe. Hein. L'Europe bénéficie de cette dynamique chinoise, de cette dynamique américaine et on observe dans les enquêtes auprès des chefs d'entreprise que l'activité est en train de se raffermir, notamment dans le secteur manufacturier, mais pas simplement. Donc on a un changement de repères qui est constaté et donc il faut que cette nouvelle économie, un peu différente de celle d'avant crise, puisse se mettre en place et un petit peu d'inflation permettrait de faciliter les ajustements.
Et bien,
il
ne
faut pas qu'on soit à 15% comme dans les années 70, mais un petit peu plus que les 2% prévu par les banques centrales, ce serait le bienvenu.
Eh bien, merci beaucoup, Philippe Wächter. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez Natixis. Un grand merci d'avoir été notre invité. Nous, on se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. On vous retrouvera également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous vous intéresserez au parking. À quoi vont-ils ressembler demain, notamment avec l'essor des voitures électriques? Vous en parlerez avec votre invité, le PDG des parkings Indigo, l'un des leaders mondiaux du secteur. 22h28, et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec Ouest France. Les hôtels et restaurants manquent de main-d'œuvre, titre le quotidien régional. Alors que nous ne sommes plus qu'à une semaine de la réouverture des établissements, les patrons du secteur s'affolent. Serveurs, cuisiniers, réceptionnistes manquent à l'appel, lassés des horaires décalés et des week-ends de travail. Au moins 100 000 employés de l'hôtellerie-restauration auraient changé de métier depuis le début de la crise sanitaire, écrit Ouest France. Israël et le Hamas au bord de la guerre totale, c'est le titre à la une demain du Figaro. Plus d'un millier de roquettes tirées depuis Gaza, des centaines de frappes aériennes israéliennes, l'escalade militaire se poursuit, mais plus que les explosions mortelles de part et d'autre, la véritable bombe à retardement de ce conflit, c'est le réveil de la cause palestinienne, écrit Philippe Gelli. Réveil initié par les Palestiniens de l'intérieur, c'est 1,5 million de citoyens arabes de l'État juif dont l'implication dans les violences pose un problème inédit de stabilité à Israël, analyse l'éditorialiste du Figaro. Un tout autre sujet à la une de Libération. Tokyo, chaos, les JO, interroge le journal. Alors que le Japon fait face à une quatrième vague de Covid, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer l'annulation pure et simple des Jeux qui doivent débuter dans 2 mois. Ce qui irrite particulièrement les Japonais et surtout leurs soignants, c'est l'importante allocation de moyens médicaux dont vont bénéficier les délégations olympiques. Alors que dans le même temps, le gouvernement japonais est clairement laxiste pour empêcher le Covid de faire des ravages dans l'archipel. Dans un instant, la Libre Antenne, mais avant, retournons au stade de la Mosson pour le foot, demi-finale de la Coupe de France. Et Montpellier est en train de s'incliner face au Paris Saint-Germain, Julien Froment.
Exactement, la 73e minute de jeu. Paris qui mène toujours 2-1 face à Montpellier, même si Montpellier n'abdique pas. Alors que les Parisiens sont quand même les plus pressants, les plus dominants dans cette partie. On va rappeler les buteurs, Kylian Mbappé à la 38e, à la 10e minute de jeu, pardon, l'égalisation fantastique de Gaëtan Laborde à la 45e et puis à la 50e en seconde période, Kylian Mbappé qui va de son doublé. C'est déjà sa 39e réalisation, toute compétition confondue, cette saison. Mbappé qui était absent pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions et pour le match de Rennes en Ligue 1 à cause d'une blessure au mollet. Eh bien, on le voit quand il est de retour, le Français, il fait les différences pour cette équipe du Paris Saint-Germain, eh bien, qui pour le moment est en passe de décrocher une 19e finale de Coupe de France, alors qu'il y a un feu d'artifice qui est lancé là, derrière la tribune du stade de la Mosson. C'est dire que les supporters montpelliérains veulent encore y croire, eh bien, à cette qualification. On le rappelle, hein, pas de prolongation. Si Montpellier égalise, eh bien, on ira directement au tir au but. La 75e minute de jeu, donc Paris qui mène toujours 2-1 face à Montpellier.
Merci Julien Froment, en direct du stade de la Mosson à Montpellier pour Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir mon cher Julien. J'étais en train de penser que quand Neymar n'est pas sur le terrain, Paris gagne. Tout ouais. Simplement, c'est une constatation.
Effectivement, 39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne.